à mon sens.
Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, en ce début de mois de novembre, on espère que vous allez bien. Pas mal de nouvelles du côté de l'actualité avec les élections américaines, confinement et couvre-feu en France, et j'en passe. Justement, en parlant de confinement, on pense beaucoup à vous et on a décidé de commencer cette émission avec un nouveau format, une histoire racontée par notre ami Gaïon sur son premier voyage en France. Ensuite, Jeanne et Julien nous emmènent marcher en montagne. Et pour finir en beauté, ne vous échappez pas, car Jean Ballon et Gaïon jouent les professeurs dans un deuxième cours de langue coréenne. Mais tout d'abord, prenons la température du côté de nos deux J fantastiques. On pète la forme aujourd'hui les gars, on est tout feu tout flamme.
Bonjour tout le monde, ça va très bien, et toi Julien?
Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude ça va très bien. Et donc oui, c'est parti pour un nouvel épisode du Corée Voyage Show.
Préparez-vous pour le décollage, détendez-vous, mettez vos écouteurs et montez le son. Une narration signée Gaïon.
Je suis né à Gwangju, la sixième ville la plus peuplée de Corée du Sud. Un million et demi d'habitants. Métropole située au sud-ouest de la péninsule, dans la province de Jeollanam-do. J'ai grandi là-bas. Au lycée, on devait apprendre le français en deuxième langue étrangère. À l'époque, les lycéens choisissaient le français ou l'allemand. Et maintenant, c'est plutôt le japonais ou le chinois. Pendant 2 ans, malgré sa complexité, j'étudiais dur pour mes cours de français. En plus, mon prof était beau et gentil. Ça me motivait pour avoir des bonnes notes. À l'âge de 19 ans, je pars pour Séoul, la capitale. Je continue à étudier le français à la fac. Un programme d'échange étudiant avec l'Université de Nantes me permet de m'envoler vers la France. Le 10 septembre 2001, j'atterris à Roissy.
Votre attention, s'il vous plaît, vous allez passer un contrôle aux frontières.
Le lendemain, le 11 septembre, les tours jumelles du World Trade Center à New York s'effondrent. 2 ou 3 jours plus tard, je n'aurais jamais eu le courage de prendre l'avion. Fin d'après-midi, je prends le TGV pour rejoindre Nantes. Dans le train, il n'y a pas de bruit. Le paysage défile sous un beau coucher de soleil. Ici, pas de montagnes, comme en Corée, mais des champs et des plaines à perte de vue. C'est la première fois que je quitte mon pays. 10 minutes dans le train, et là... Premier choc culturel. Quelqu'un se mouche. Je me dis, mais il doit être mal élevé celui-là. Pourtant, ce n'était pas le seul. À côté de moi, un homme, bien habillé, propre sur lui, se mouche à son tour. En Corée, se moucher en public est très mal vu. On fait ça aux toilettes ou à l'abri des regards. J'arrive enfin à Nantes. Je dois prendre le tramway pour rejoindre ma résidence étudiante. Coût du trajet, 6 ou 7 francs. Je rentre dans un bureau de tabac pour y acheter mon ticket. Je sors un billet de 500 francs. Le vendeur me regarde. Stupéfait.
Eh madame, j'ai pas de monnaie moi sur un billet de 500.
En Corée, jusqu'en 2009, la plus grosse coupure était un billet de 10 000 won, l'équivalent de 8 euros actuellement. Heureusement que je ne suis pas tombée sur un pickpocket. J'avais vraiment pas fait attention en sortant mon argent. « la vie en France était plus chère qu'en Corée. Moi, qui fréquentais souvent les salons de coiffure, je ne suis allée qu'une seule fois chez le coiffeur. Tarif minimum, 15 euros à l'époque. 2 fois plus cher qu'en Corée. Résultat, j'arrive en France avec les cheveux courts, mais je repars avec les cheveux hyper longs. Manger au restaurant coûte cher en France. Pour moi, petite étudiante, au budget serré, même le resto universitaire était trop cher. Du coup, pas le choix. Je devais me faire à manger. Encore, fallait-il savoir comment cuisiner? C'est grâce à un livre de recettes coréennes que je m'en suis sortie. C'est vrai que c'était pas toujours très bon, mais ça m'a au moins permis de survivre. J'achetais les ingrédients au supermarché et les sauces dans un magasin chinois. 여보세요? Allô? Trop cher de passer un coup de téléphone. Autant prendre le train pour aller voir mes amis. Prix de ma carte de transport? 20 euros par mois. D'ailleurs, ce type d'abonnement n'existe toujours pas en Corée. Tiens, pourquoi elle me sourit là? On se connaît? En France, entre inconnus, il arrive qu'on se croise du regard. Parfois même, on se sourit. Les Coréens, nous, on ne sourit pas aux inconnus. Ça fait pas partie de notre culture. C'est peut-être pour ça que les Français trouvent les gens froids en Corée, surtout quand ils regardent les gens marcher dans la rue. Le mariage à la coréenne. Plus de 200 invités, 40 ou 50 minutes, et c'est fini. Pas question d'arriver en retard si tu ne veux pas rater la cérémonie. On invite tout le monde. La famille éloignée, les collègues de travail, les amis de nos parents qu'on connaît même pas. Par contre, en France, il y a moins de monde. C'est toute une autre ambiance. Je me souviens du mariage d'une de mes proches. On avait passé toute la soirée à faire la fête, à manger, à boire. Ça dansait, ça chantait. En parlant de nourriture, en Corée, tous les plats sont servis en même temps. La culture du dessert n'existe pas vraiment. De temps en temps, un petit café ou un fruit pour finir le repas, mais pas toujours.
C'est ça, elle est belle.
La première fois que j'ai pris un repas français, je me suis jetée sur l'entrée. Du coup, j'avais déjà plus faim pour le plat principal. Un petit dessert pour finir quand même? Mais oui, bien sûr, il y a toujours de la place pour un dessert. La France, c'est vraiment le paradis des gourmands. Ça tombe bien. Par contre, j'ai dû prendre 10 kilos en 10 mois. Mais ce n'est pas que la faute au dessert. Du beurre salé tartiné sur un bon pain. Waouh, j'adore ça. C'était mon petit déjeuner quotidien. Pour moi, la France, c'est aussi le pays du kebab, de l'orangina. L'orangina qui est désormais vendu en Corée depuis l'année dernière. Sans oublier les crêpes au Nutella. Mes endroits préférés en France? Il y en a tellement. Je dirais Paris, Strasbourg, Annecy, surtout Annecy-le-Vieux. Mais mon coup de cœur reste pour Nantes. Que de bons souvenirs. Je n'oublierai jamais les 2 familles d'accueil qui m'ont reçue chez elles comme si j'étais leur propre fille. Je suis retournée à Nantes en 2011. Pas grand-chose avait changé. La ville était restée très jolie et le pain toujours très bon. En Corée, tout change si vite.
Après ce magnifique récit, il est l'heure d'aller se rafraîchir un peu l'esprit à la montagne.
Ouais, montagne.
Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'une des activités les plus populaires de Corée en automne. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les feuillages sont particulièrement beaux ici. Et pour en profiter pleinement, rien de tel qu'une randonnée. Le pays est composé à 70% de montagnes et Séoul ne fait pas exception à la règle. En effet, la ville est entourée de pas moins de 7 montagnes distinctes.
Alors oui, la randonnée, c'est presque un passe-temps national ici, tellement les montagnes sont prises d'assaut, particulièrement en automne. Et ici, les randonneurs ne rigolent pas sur l'équipement. Les Coréens sont bien souvent équipés de la tête aux pieds de toute la panoplie du parfait randonneur. Moi, personnellement, tous ces Coréens vêtus de vêtements de couleur jaune, vert, rose fluo me fait toujours un peu sourire. Et toi, Jeanne, qui habite en Corée depuis un petit moment, possèdes-tu la tenue de la parfaite randonneuse ?
Non, et d'ailleurs, c'est toujours le dilemme avant de partir en randonnée. Je ne sais jamais comment m'habiller. Surtout pour ne pas passer pour une randonneuse du dimanche qui s'est perdue. Les Coréens mettent vraiment la barre très haut, on dirait qu'ils vont grimper l'Everest à chaque fois. Si la montagne la plus célèbre de Séoul est le mont Bukhansan, situé au nord de la périphérie de Séoul, avec un pic s'élevant à 836 mètres et qui offre une vue époustouflante sur la ville, aujourd'hui, on va vous emmener du côté de Gwanaksan, donc une autre montagne. Située au sud de la rivière Han, elle propose de nombreux chemins de randonnée pour les randonneurs des plus débutants aux plus chevronnés. D'ailleurs, Julien, je crois savoir que tu y es allé déjà plusieurs fois, n'est-ce pas ?
Alors oui, hein, tout à fait. Gwanaksan est à deux pas de chez moi. J'y suis allé pas moins de trois fois récemment. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'apprécie ici, c'est que la majorité des séoulites peuvent se rendre en montagne en moins d'une heure en transport en commun. Là aussi, comme on aime le dire dans le pays du matin clair, on retrouve un fort contraste en pénétrant dans ces montagnes. On se retrouve en pleine nature, loin d'imaginer qu'à deux pas d'ici s'étend la ville tentaculaire de Séoul.
Pour être un petit peu plus précis sur Gwanaksan, c'est une montagne qui possède un sommet de 632 mètres de haut. Alors oui, on est loin des plus hauts pics français, mais celle-ci s'étend quand même sur deux districts de Séoul, qui sont Gwanak et Gyeongchon, ainsi que sur deux villes, Anyang et Gwancheon, dans la province de Gyeonggi. De sa proximité avec le centre de Séoul, c'est en moyenne pas moins de 7 millions de randonneurs par an qui viennent grimper le pic rocheux de Gwanak, rien que ça. Donc Julien, tu es toi aussi monté jusqu'au sommet.
Tout à fait, oui. Donc j'habite depuis un an pas très loin de Gwanaksan. Et depuis le temps que je voyais le sommet, avec l'automne, je me suis enfin décidé à faire la randonnée. Et si vous aimez la montagne et que vous avez l'esprit randonneur, je vais vous donner un itinéraire à faire lors de votre voyage en Corée. D'ailleurs, il me semble que toi aussi, Jeanne, tu es déjà allé faire la randonnée de Gwanaksan.
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié cette randonnée. Je suis curieuse d'ailleurs du chemin que tu as emprunté. Parce que quand je l'ai fait, je crois que mes amis et moi, on n'a pas pris le bon chemin. C'était plutôt très broussailleux et on était complètement seuls.
Alors tout d'abord, avant de partir, n'oubliez pas d'emporter votre bouteille d'eau et de quoi grignoter. Certains Coréens emportent carrément leur pique-nique, sans oublier la bouteille de makgeolli, à col de riz, doux et laiteux. N'est-ce pas, Jeanne ?
Oui, ça vous aide à monter et surtout à descendre plus vite. Un bon petit coup de pouce.
Alors, pour l'itinéraire, si vous partez de Séoul, vous devez emprunter la ligne 2 du métro et descendre à la station Seuldae-Ipku, sortie 3. Seuldae-Ipku, station Université Nationale de Séoul en français. Vous ne descendrez pas au pied de la montagne, vous devez ensuite prendre le bus 5513. Descendez ensuite au 10e arrêt. Si vous êtes un peu perdu dans les arrêts de bus, ce n'est pas toujours facile de se repérer. Généralement, vous ne serez pas le seul randonneur. Suivez les Coréens équipés en tenue de randonnée, facilement repérables par leurs habits de couleur flashy, souvenez-vous. Vous arriverez proche de l'une des entrées de la randonnée. De ce point, il faut suivre la direction Yeonju-dae. Le sommet se trouve à environ 2 km de marche. Comme toujours en Corée, les randonnées montagnes sont très aménagées. On y retrouve de nombreuses indications et des cartes tout au long du parcours. La randonnée commence tranquillement par une petite montée au milieu des arbres. On arrive sur des chemins de cailloux, là encore bien aménagés, pour faciliter votre ascension. Puis enfin, des escaliers. Parfois, les escaliers peuvent paraître interminables, mais c'est un excellent exercice pour renforcer ses cuisses. Après deux bonnes heures de marche, vous apercevrez l'ermitage Yeonju-dae. Le sommet n'est plus très loin.
Effectivement, n'oubliez surtout pas de passer par cet ermitage. Construit initialement en 677, lors du royaume de Shilla, par le moine bouddhiste Eysan, il fut par la suite le repère des partisans des royaumes déchus. Son nom, Yeonju-dae, signifie littéralement « le roi nous manque ». L'ermitage se dresse sur une paroi rocheuse verticale, un spot incontournable pour les photographes et amateurs de paysages à couper le souffle.
Et là, c'est le moment de prendre votre pique-nique et votre verre de makgeolli. Doucement sur le makgeolli, il faut penser à redescendre. Préférablement, pas sur vos fesses.
Oui, profitez-en plutôt pour aller méditer dans cet ermitage et redescendre en toute sérénité. Quoique, le Macaulay aussi, hein, ça peut apporter sérénité et relaxation. Allez, on va maintenant aller faire un tour du côté de la salle de cours avec nos professeurs préférés, Jean Ballon et Gaillon, pour cette deuxième leçon de coréen.
Salutations et bienvenue pour ce deuxième épisode. Bonjour Gaillon. 안녕하세요, 가연 씨.
안녕하세요, 장발롱 씨. 밥 먹었어요?
Aujourd'hui, nous allons voir trois expressions. Attention, je rappelle que la prononciation que vous pouvez entendre de ma part n'est pas la plus correcte, mais une prononciation approchante avec l'accent français. Tout d'abord, il faut savoir que la langue coréenne fait partie des langues de type sujet, objet, verbe, comme en latin. Le type sujet, objet, verbe, c'est en fait le type le plus répandu dans le monde. Et le type sujet, verbe, objet, comme en français, est lui le plus répandu en Europe. Bon, maintenant, parlons de la première expression que vous entendez d'ailleurs dans le générique. Bap mogosso. Bap mogosso peut correspondre à comment allez-vous en coréen. Voici comment on découpe. Bap, ça désigne le riz cuit. On peut le prononcer comme B-A-P, sauf qu'on ne prononce pas le P à la fin, on ferme la bouche. Bap. Et donc, ça désigne le riz cuit, par extension, le repas. Mogosso. C'est la forme passée du verbe manger. Avec trois O ouverts. Donc, bap mogosso, la phrase en elle-même, elle dit est-ce que tu as mangé du riz ? Ou tout simplement, est-ce que tu as mangé ? L'explication est la suivante. La génération des Coréens d'environ 60-70 ans emploie cette expression pour dire bonjour et comment ça va ? Cela venait probablement de la situation très difficile d'après-guerre dans les années 1950. Et encore maintenant, ils disent bap mogosso pour commencer la conversation. Mais la jeune génération n'a pas vécu cette période de famine et donc ne le dit plus. Cependant, les Coréens qui se voient souvent entre amis ne se disent pas beaucoup « comment ça va ?». Alors, nous avons vu cette expression uniquement pour la comprendre si vous l'entendez dans ce contexte et non pas dans le contexte de demander si vous avez réellement mangé. Et donc, en tant qu'étranger, il n'y a quasiment aucune raison d'employer « bap mogosso » pour dire « bonjour » ou « comment ça va ?». Pour dire « comment allez-vous » de manière plus correcte, on peut dire «
잘 지냈어요?
잘 지냈어요? Voyons maintenant la deuxième expression qui va servir à demander son chemin. Écoutons. Sinchon-yok, 어디 있어요?
저기 있어요.
Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé où se trouve la station de métro de Sinchon. Donc comme j'ai dit, c'est sujet, objet, verbe. Et pour une question, cet ordre ne varie pas. On pose une question soit en modifiant l'intonation, soit en rajoutant une particule verbale K. Ici, ce sera l'intonation. Donc, où est la station de métro de Sinchon? Ça devient Sinchon, la station de métro, où est. Reprenons. Sinchon, c'est le nom de la station. Yok, ça se prononce comme yok, l'ustensile de cuisine, et ça veut dire station de métro. Odi, c'est l'adverbe interrogatif où. Isoyo, c'est le verbe être dans le sens exister, il se trouve, il y a.
Jogi isoyo.
Alors, jogi, ça veut dire là-bas. Isoyo, exister. Donc, jogi isoyo, ça veut dire c'est là-bas. Si on récapitule la conversation. Sinchon-yok, 어디 있어요?
저기 있어요.
Des fois, on voudrait bien demander où sont les toilettes. Les toilettes en Corée, ça se dit 화장실. 화장실. Alors, on peut dire 화장실, 어디 있어요? En Corée, on peut trouver facilement des toilettes publiques partout. En plus, c'est propre et c'est gratuit. Si vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez entrer au McDo ou à un café comme Starbucks, une galerie marchande ou même au poste de police. Ça, je ne l'ai jamais fait. C'est sur ce point que les touristes coréens ont du mal quand ils voyagent en Europe, car les toilettes publiques sont difficiles à trouver, c'est payant et souvent c'est sale. On va répéter.
Sinchon-yok, 어디 있어요? 화장실, 어디 있어요?
Malheureusement, si vous essayez de faire une belle phrase, voici ce qu'il va vous arriver. Sinchon-yok, 어디 있어요?
첫 번째 신호등까지 직진한 다음에 파리바게뜨를 끼고 왼쪽으로 돌면 아마 두 번째 골목에 있을 거예요.
Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il faut donc trouver un moyen de demander son chemin en montrant que vous ne comprenez pas le coréen. Déjà, ce n'est pas évident de bien prononcer le nom de l'endroit que vous cherchez. Il y a très peu de chances que les Coréens comprennent le nom de cet endroit-là. Alors, dans ce cas-là, on pourrait employer le mot « yogi », qui veut dire « ici » en français, en montrant le nom de l'endroit sur une carte. Et après, il suffit de dire « odi », qui signifie « où » en français. Alors, on pourrait demander comme cela « yogi, odi ?» Ce n'est pas une phrase parfaite, mais au moins les Coréens vont comprendre que ce que vous voulez, c'est d'aller quelque part et que vous ne parlez pas coréen. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui vous fait une grande phrase comme avant et même avec votre question toute simple, il vous faudra alors chercher une autre personne. Si vous posez la question « Yogi, odi ?», la plupart des Coréens vont essayer de vous aider. Il y a toujours des exceptions, mais les Coréens, surtout les jeunes, ne sont pas méchants avec les étrangers qui cherchent leur chemin. Si la destination n'est pas très loin, ils pourront peut-être vous accompagner jusqu'au point où l'on peut voir votre destination. Autrement, vous pouvez aussi montrer Google Maps sur votre téléphone et ils vont vous montrer le chemin. Ne vous inquiétez pas, les Coréens ne voleront pas votre téléphone sous vos yeux. Sinon, vous allez pouvoir dire « Je ne connais pas le coréen ». Alors comment dit-on « Je ne connais pas le coréen » en coréen ? Voici donc la troisième expression.
한국어 몰라요.
한국어 몰라요. 한국어 désigne la langue coréenne. Et 몰라요 signifie « je ne sais pas ». Je ne connais pas. Répétons l'expression d'aujourd'hui. Yogi, odi?
Ah, 저기, 저기.
한국어 몰라요. Vous pourrez retrouver sur le site de Corée Voyage, dans la partie podcast, plusieurs liens ainsi qu'une anecdote à propos de la station de Sinchon. C'est la fin de cet épisode. À bientôt.
다음에 만나요.
Les meilleures choses ont malheureusement toujours une fin. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et cela inclut bien évidemment vous, mesdames et messieurs, fidèles au poste, de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Continuez à nous écouter. Abonnez-vous pour savourer un moment de gaieté dans la joie, la paix et la bonne humeur. On se quitte en musique pour terminer la semaine en toute décontraction. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et gardez le sourire. 안녕히 가십시오. We have